L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 19h30, ce 15 avril 2019. Les flammes de l'enfer ont dévoré Notre-Dame. Les images qui circulent semblent irréelles, insoutenables. C'est la forêt qui brûle et qui perd à chaque instant ses chaînes millénaires, ceux-là même qui trônent sur les hauteurs parisiennes depuis des siècles. Au cœur de sa charpente, ces arbres souverains depuis longtemps, gardiens des anges et des apôtres, plient sous le poids du brasier et assistent, impuissants, à l'agonie de leur mère, Notre-Dame. Les flammes viennent lécher les armatures. Les pierres et les poutres qui soutiennent la Sainte Mère des cathédrales se consument et meurent. Alors la résistance s'organise. Le miraculeux aussi. Mais le malin prend de l'avance et dévore tout ce qui passe sous ses griffes. On soustrait à Notre-Dame ses entrailles les plus précieuses. On place en sûreté les organes vitaux que l'on veut arracher à l'enfer, tant bien que mal. La Sainte Couronne et les autres s'échappent par des portes dérobées alors que la nef suffoque, comme asphyxiée par le brasier qui s'étend. Au dehors, les larmes qui coulent sur les joues ne peuvent suffire à enrayer l'infernale machination qui se déroule au-dedans. La stupéfaction règne. L'incompréhension aussi. L'armée du feu se déploie et tente de faire reculer le feu qui ronge leur Notre-Dame. Les héros entrent et défient les enfers de l'intérieur, sauvent les peintures de Le Nain, déshabillent de ses joyaux la dame placée sur le bûcher. Ses plus imposantes parures, que tout l'héroïsme du monde ne peut déplacer, plient sous les attaques et ploient sous les coups. La nuit tombe sur Paris qui reste éclairée d'une meurtrière lueur. La lune, frappée de stupeur, transcende l'une de ses plus vieilles amies avec vigueur, comme pour faciliter l'action des héros, placés maintenant dans les tours nord et qui permettent, mètre après mètre, le ralentissement de l'agonie. La vigueur des enfers n'est bientôt plus qu'un terrible souvenir, et les quelques foyers résiduels, ici et là, ne peuvent plus consumer les chairs déjà trop meurtries. Il est 3h45 et à Paris, une des grandes dames de ce monde n'est plus. Celle qui avait vu entrer un jour de décembre un empereur qui ferait l'histoire du monde. Celle qui, lors d'une journée ensoleillée de printemps, avait reçu, triomphante, le Te Deum de la libération, rend son dernier soupir. Bientôt, c'est un soleil voilé de deuil qui se lèvera sur la France et baignera la nef dénudée de son manteau. Ah, les réveils sont difficiles. Les larmes n'ont pas encore tout eu le temps de sécher. Les premiers pas résonnent sur le sol couvert de cendres et l'on assiste à des scènes de miracles qui rendent humble. La dame vient de replonger dans l'éternel sommeil duquel elle était sortie. Sa grandeur est toujours bien présente. L'autel, fier dans le malheur, est intact et la voûte divine qui le surplombe a tenu. Elle a bien cédé au malin par endroits, mais éblouie de grandeur, elle a survécu. La croix sur l'autel, transpercée par les rayons du soleil et des âmes venues la prier depuis des siècles, trône au milieu de cet assourdissant silence qui baigne la place sacrée. Les bancs sont intacts, à tel point qu'on pourrait croire qu'une célébration s'est tenue il y a quelques instants encore. Seule l'odeur du bois brûlé et des morceaux de voûte au sol rappelle l'horreur du drame qui s'est déroulé ici. La Vierge, située aux côtés, toise les premiers visiteurs d'un regard de miséricorde et de tristesse. Elle transmet, d'un œil tantôt désespéré, tantôt résigné, ce qui reste de la dévotion. Victor Hugo avait écrit dans Les Misérables, décrivant le drame comme une funeste prémonition, que Notre-Dame est aujourd'hui déserte, inanimée, morte. On sent qu'il y a quelque chose de disparu. Ce corps immense est vide, c'est un squelette. L'esprit l'a quitté et on en voit la place, et voilà. il avait tort. Il y reste l'amour et la foi qui, plus de 8 siècles durant, ont permis à la grande dame d'exister. L'histoire a aujourd'hui pris sous son aile divine celle qui s'en sévit trop d'un autre âge et sa flèche qui touchait le royaume des cieux continuera d'exister et de porter sur elle la destinée de la fille aînée de l'Église, la France. Mais que s'est-il passé ce 15 avril 2019 pour que l'un des édifices les plus célèbres d'Europe manque de disparaître à tout jamais? Eh bien, venez avec moi. Ensemble, nous allons mener l'enquête. Pour comprendre, il nous faut revenir en arrière et dérouler les prémices de la tragédie. Il est 18h15, ce 15 avril 2019. La cathédrale, comme à l'accoutumée, est bondée, pleine de touristes. C'est aussi l'heure de l'office religieux. Le chanoine Jean-Pierre Caveau est là, vêtu de sa soutane noire. Assidûment, pile à l'heure, comme d'habitude, il démarre la cérémonie. Toutes les places assises sont occupées ce soir, principalement par des fidèles. Quelques touristes, épars, sont restés pour l'écouter et d'autres, sans le moindre respect, prennent des photos avec leurs flashs ou continuent de parler à voix haute. Des membres du personnel interviennent et un semblant de quiétude reprend le dessus. La voix du prêtre, grave et au coffre des plus impressionnants, enrobe avec amplitude la nef et l'arrière du chœur. Au bout de 5 minutes, il demande aux présents de se lever pour la prière. Soudain, retentit le bruit strident des micros destinés aux communications pour les visiteurs et les fidèles. C'est pour le moins inhabituel, et le chanoine tend l'oreille. Le personnel demande l'évacuation de l'édifice à la suite du déclenchement d'une alarme de sécurité. Un exercice à 7 heures, durant son office. L'homme de foi suit les règles et les procédures, fait évacuer la nef dans le calme, mais il est furieux. Ah, il va réclamer des comptes! L'organiste, qui assure l'office ce soir, lui semble prendre la mesure du problème. Cette alarme sonne en lui comme un avertissement macabre. Au sein du local de la sécurité de Notre-Dame, là aussi, on suit les procédures. Le chef de poste envoie un de ses gardiens faire une ronde. L'alarme incendie qui s'est déclenchée concerne la zone C12, une partie excentrée de la charpente. La flèche est en restauration en ce moment. Il ne faut rien laisser au hasard. L'agent prend ses clés et se précipite vers la zone concernée. En attendant, le chef de poste vient d'allumer les micros. La cathédrale doit être évacuée. Arrivé sur place, zone C12, l'agent ne trouve aucune trace, ni de fumée, ni de départ de feu. Eh bien, somme toute, tout va bien. C'est sans doute un bug informatique. Par sécurité, il décide tout de même de faire une ronde complète dans la charpente. C'est sans doute l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Assemblée à partir du XIIIe siècle, celle qu'on appelle de manière commune la forêt est un monument à elle toute seule. Comme un navire qui aurait été retourné au lieu d'être mis en mer, les centaines de poutres surplombent d'un air solennel celui qui vient déranger leur repos plus que centenaire. En réalité, ce sont plus de 1500 chaînes qui ont été utilisées pour bâtir la merveille qui se déroule devant ses yeux privilégiés, soit 21 hectares de forêt. Cette charpente supporte un toit composé de 1326 tuiles de plomb qui viennent faire peser sur ces géants de bois un poids hallucinant de 210 tonnes. Il est agent de sécurité et pas guide, mais il connaît bien son sujet. Notre-Dame, c'est sa deuxième maison. Notre homme regarde distraitement à l'extérieur. D'ici, il peut presque voir son immeuble. Allez, encore 2 heures et il pourra rentrer chez lui. Sa femme lui a promis une pizza maison. Son talkie-walkie en main, il s'apprête à le déclencher pour rassurer son supérieur. Mais rapidement, il se ravise. Il sent une odeur familière qui plus est, et son sang immédiatement se glace. Aussi vite que possible, il se précipite vers le cœur de la charpente, la flèche Il est 18h30. Le chef du poste de sécurité n'en croit pas ses oreilles. La zone indiquée était mauvaise, mais il y a bien un départ de feu au sein de la charpente de la cathédrale. La stupeur qui se lit sur son visage est palpable. L'espace de quelques instants, totalement sous le choc, il reste inerte. Il lui faut un peu de temps, juste un peu, pour réaliser ce qui se passe. Suivre la procédure, voilà ce qu'il doit se contenter de faire. Étape numéro 1, appeler sur la ligne de secours dévolue à cet effet les pompiers de Paris. Étape 2, avertir le préfet qui, lui-même, en référera aux autorités centrales. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'adresse à la nation dans 1h30. Les mains moites, les yeux rivés vers la nef, il compose en tremblant les numéros qui s'affichent sous ses yeux. La deuxième alerte sur son écran s'affiche à 18h43, soit 13 minutes après la découverte de son agent de sécurité. Les pompiers, eux, arrivent à 18h58. Lorsqu'il a reçu l'appel venant de Notre-Dame, le général de division Jean-Marie Gontier, l'homme de devoir, s'empresse d'appliquer lui aussi ce qui lui semble le plus adapté. Le temps presse et il joue contre l'édifice. Le général, sans hésiter, compose le numéro de Matignon. Édouard Philippe, le premier ministre français, lui répond dans l'instant. Les premiers camions de pompiers qui hurlent dans les rues de Paris déferlent sur la place Jean-Paul II au milieu des badauds. La foule compacte s'est déjà entassée près de l'édifice. Le périmètre de sécurité mis en place par le préfet de police de la capitale a déjà été installé devant les tours nord. Les soldats du feu claquent les portières de leurs véhicules. Ils sont les premiers sur place. Une trentaine d'autres camions vont bientôt les rejoindre. L'un d'entre eux, machinalement, regarde sa montre. Il est 18h59. Pris d'effroi, il constate l'irréparable. De la fumée dense s'échappe de la flèche et de la toiture. Il est déjà trop tard. De son bureau, la maire de Paris contemple l'horreur du spectacle. Elle prend son téléphone dans l'instant et appelle le préfet, qui est déjà au courant. Palais de l'Élysée, 18h55. Alors qu'Emmanuel Macron prépare son allocution du soir, il est interrompu par Alexis Kohler, le secrétaire général à la présidence. Notre-Dame est en feu. Tout de suite, c'est le branle-bas de combat. Une réunion de crise s'organise. D'un geste, le président de la République annonce le report de sa prise de parole. La France, ce soir, part au combat pour l'un de ses trésors. Sur place, la situation ne fait que s'envenimer un peu plus à chaque minute qui passe. On tente d'abord de contenir l'incendie, ce qui s'avère rapidement être une mission des plus délicates, tant le bois sec se fait le complice des flammes. Les conservateurs et spécialistes patrimoniaux s'affolent. Il faut sauver les meubles, les reliques, les peintures et les statues. Jamais Notre-Dame de Paris n'a été attaquée de la sorte par les flammes. Et par principe de précaution, jamais l'électricité n'avait été installée là-haut, dans la forêt. Précaution aujourd'hui inutile, hélas. Les soldats du feu du premier camion, déjà équipés de leurs combinaisons et de leur matériel, s'engagent dans les escaliers de la cathédrale afin d'accéder à la charpente. Sous leurs pieds, ces marches qui ont vu défiler les hommes durant des siècles se crispent, comme alertées par le brouhaha inhabituel de ces visiteurs peu communs. Ce soir, les prières ne vont pas suffire à les sauver. La charpente millénaire se consume. Les poutres et les jointures flanchent face à ce feu dévastateur. Tous ces éléments en bois portent les noms des charpentiers d'un autre temps qui gravèrent leur patronyme sur les flancs des poutres et des jointures. Bientôt, ce sont leurs souvenirs qui disparaîtront à tout jamais, emportés par la fureur d'un feu que rien ne semble pouvoir arrêter. On oubliera leurs noms et jusqu'à leur existence. Ici et là, il est encore possible de distinguer les graffitis de ceux qui sont venus parfois de loin pour s'approcher de leur Dieu. Entre les flammes, on peut lire Le Fort, Grangier, Lépine ou Riffet. Des noms d'un autre âge que l'histoire avait oublié, mais pas Notre-Dame, qui les avait jusqu'à aujourd'hui jalousement gardés. Les corniches et la charpente sont bientôt équipées de lances à incendie. À l'extérieur, les premières caméras de télévision sont sur place et suivent en direct l'implacable avancée des flammes. Les premiers spécialistes ou ecclésiastiques sont en duplex sur les plateaux et témoignent de l'émotion qui est la leur. La France est en deuil, comme si la majorité des Français assistait impuissante à la perte d'un être cher. Les flammes, elles, commencent à ronger la flèche, la magnifique invention de Viollet-le-Duc, qui seul touche du bout de sa pointe les portes de Saint-Pierre. Il est 19h17. La toiture s'embrase maintenant elle aussi, et les flammes commencent à dégager une fumée jaune. Désormais, même ceux qui habitent à quelques kilomètres de Paris peuvent la voir. Le soleil commence à décliner, et les soldats du feu n'ont pas rendu les armes. Des renforts arrivent, encore et toujours. Des bras élévateurs articulés, fabriqués pour attraper les nuages, arrivent de Versailles et peuvent atteindre 46 mètres. Ce n'est hélas pas suffisant pour entamer la progression du rouleau compresseur infernal en cours. À 19h50, sous les yeux des caméras du monde entier, la merveilleuse flèche de Notre-Dame, torturée par les flammes, agonisante sous les coups du bûcher, s'effondre et traverse la toiture. Sur les corniches attenantes, des soldats du feu léchés par les flammes, les mains crispées sur les lances à incendie, sont concentrés sur le toit et tournent donc le dos à celle qui touche encore le ciel. La croix qui la surplombe commence à osciller. Cette flèche est sortie de l'imagination d'un génie de son temps, Viollet-le-Duc. Sa grande sœur d'origine a été démontée, abîmée par les aléas de l'histoire à la veille de la Révolution française. Celle-ci trône sur Paris depuis le milieu du XIXe siècle, culminant à 93 mètres tout là-haut. Protégée par un manteau de plomb de 250 tonnes, elle est gardée par 12 statues impressionnantes qui toisent les Parisiens, les apôtres de Jésus. Tout en haut vient la croix et posée dessus un coq, la France. Lui, comme un symbole, va survivre à cette chute et sera récupéré dans les décombres dès le lendemain. En attendant, un des pompiers hurle à ses compagnons que le pire est en train de se produire. Et soudain, la chute du symbole. Juste à côté d'elle, les sauveteurs de Notre-Dame encaissent le choc dans un souffle énorme, un bruit oppressant et angoissant. La grande dame, dans sa suite, emmène une partie des échafaudages présents autour d'elle pour sa restauration et comble de l'horreur. Une partie de la voûte de la cathédrale se dérobe et s'éclate sur le carrelage. Il y a 3 heures à peine, des fidèles étaient encore en train d'y prier. Sa chute fait craindre le pire à tous les spécialistes dépêchés sur place. Notre-Dame a émis des vibrations, blessées jusque dans ses entrailles. Le cratère dans la toiture est gigantesque. Les plaies sont béantes. Une 20aine de pompiers se trouvent à l'intérieur des murs au moment du souffle. Certains sont au cœur de la nef. Mais Notre-Dame, pudique peut-être, résistante surtout, se referme. L'effet de souffle est tel que toutes les portes d'entrée, massives et lourdes de plusieurs centaines de kilos, moyenâgeuses, se referment subitement, bloquant les soldats du feu à l'intérieur du bâtiment. Le soleil se couche sur la plus belle ville du monde. Et pour les chevaliers des temps modernes qui défendent la résidence de Quasimodo et d'Esmeralda, la lutte ne fait que commencer.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le 15 avril 2019, un incendie tout droit sorti des enfers ravage la plus belle dame de la capitale française. La nuit tombe et le feu redouble d'intensité. Pour les pompiers, ce sont des heures cruciales qui s'engagent. Les voici. Il est 21h. Les soldats du feu, engagés depuis maintenant plusieurs heures contre la tragédie, luttent héroïquement, tels les Spartiates aux Thermopyles. En infériorité numérique, mais formant une barrière infranchissable. L'un d'entre eux, au cœur du brasier, près des tours, remobilise ses compagnons. Tous savent qu'ils vivent un moment tragiquement historique et qu'ils endossent les capes des héros. La tour nord, elle, se pare d'une tonsure de feu dès le coucher du soleil. Les journalistes présents sur l'île de la Cité sont pris d'effroi en voyant les flammes sortir des ouvertures extérieures de la géante Notre-Dame. Le sauvetage des tours devient la mission primordiale des nouveaux pompiers arrivés sur les lieux. Il est inconcevable de perdre plus d'éléments de la structure après la chute de la flèche. Parallèlement, l'hypothèse de bombarder sur la cathédrale de l'eau en grande quantité est rejetée par la sécurité civile, qui craint une fragilisation de la structure. En effet, les autorités voient déjà plus loin. Tout le monde craint déjà un effondrement partiel ou total des parties sauvées une fois l'incendie éteint. La nuit qui s'engage, sous un brasier intense, remet à plus tard ses interrogations. 18 lances à eau et 400 pompiers sont mobilisés à 22 heures. La tour nord n'est pas encore tirée d'affaire, mais la stratégie mise en place offre ses premières satisfactions. Moins d'une heure plus tard, à 22h50, les flammes dans cette zone ont été maîtrisées. Les soldats du feu obtiennent alors leur première victoire sur l'enfer. La toiture, elle, n'a pas pu être sauvée. Aux alentours de 23h, sa destruction est quasi complète et le plomb qui la recouvre pollue l'air de la capitale en grande quantité. Les pompiers continuent de se battre et au plus fort de la crise, ils sont près de 600 à être mobilisés. Leur travail de fourmi, acharné, pour forcer la retraite des flammes, finit par provoquer des miracles. Après le sauvetage des tours, les pompiers de Paris annoncent au petit matin que l'incendie est cette fois maîtrisé. Il faudra attendre 9h50, le 16 avril, pour que les derniers foyers résiduels refusant la défaite soient terrassés. Notre-Dame de Paris retrouve alors un calme apparent. Les cendres continuent de tomber dans la nef, baignées de soleil, et la croix, presque mystiquement restée debout sur l'autel, est frappée de lumière par le trou béant que la flèche a laissé dans sa chute. Les flammes paraissent presque déjà n'être qu'un lointain souvenir. Seules les traces de la bataille peuvent déjà témoigner de la violence de l'affrontement. Les visages des héros aussi, couverts de suie, les mains tremblantes. Les derniers soldats du feu quittent la cathédrale par la grande porte. Là, des dizaines de caméras du monde entier, des centaines de badauds, haletants, attendent témoignages et verdicts. Personne ne dit encore que la cathédrale est sauvée. La structure, considérablement atteinte, peut encore s'effondrer. Le feu ne détruit pas que la chair, il attaque aussi les os. Miracle dans la tempête de la veille, lorsque les conservateurs du patrimoine analysent les pertes engendrées, leur cœur est moins lourd que prévu. En effet, la plupart des trésors de Notre-Dame ont pu être sauvés. Pour que nous puissions tous ensemble comprendre comment a pu avoir lieu cette intervention décisive, nous devons une nouvelle fois remonter le temps. Alors, replongeons au cœur du brasier. Nous sommes le 15 avril 2019. Il est 20h. Jean-Marc Fournier est un homme de Dieu. Aumônier des pompiers de Paris, sa carrière est jalonnée par les plus grands désastres. À chaque fois, il en a été un héros. Tout d'abord en Afghanistan, dans les années 2000, puis lors des attentats du Bataclan à Paris, en 2015. Sa figure rassurante avait alors accompagné bon nombre de victimes de l'horreur islamiste. Pourtant, dans le cas présent, notre homme de foi est particulièrement ébranlé par le spectacle qu'il découvre. Sa priorité à lui est claire dès le départ dans son esprit. Il faut sauver les reliques. Aidé de quelques pompiers de Paris qui l'accompagnent, il se rue au cœur de la nef. La respiration haletante, les yeux embués par l'émotion et le soufre qui déjà fait son effet, il se précipite vers la zone consacrée à ce qu'on appelle le trésor qui regroupe les plus belles pièces du catholicisme. Il a déjà eu la chance de voir tous ces objets de près, mais il s'apprête aujourd'hui à les prendre en main et à les évacuer de leur refuge millénaire. La couronne d'épines est la première à sortir de son emplacement, suivie de la chemise de Saint-Louis et du Saint-Sacrement. Tout doucement, avec patience et lenteur, dans le chaos du brasier, chaque objet est déposé dans une caisse, trouvé à la hâte avec des matériaux de conservation de fortune. Comprenez du papier bulle ou du papier de soie. La chemise de Saint-Louis, légère et souple, semble tout droit sortie de la garde-robe du roi saint. Le prêtre soldat du feu le sait. Il a la base de la foi catholique entre ses mains et son sens du devoir en est décuplé. Demain, les journaux du monde entier parleront de son action. Lui, il estime n'avoir été simplement que professionnel, comme à son habitude. En ressortant, il passe devant les tableaux qui jalonnent les murs de la cathédrale, regarde les rosaces nord et sud du transept que déjà les flammes semblent menacer. Il contemple enfin la Vierge à l'enfant, cette splendide sculpture du XIVe siècle devant laquelle un jour l'académicien Paul Claudel s'était converti au catholicisme. Jean-Marc Fournier ne le sait pas encore, mais miraculeusement, toutes ses œuvres n'auront subi finalement que peu de dégâts. La sculpture sera simplement arrosée d'eau par les lances à incendie. Les rosaces vont tenir bon et, plus impressionnant encore, les tableaux muraux, eux aussi. Le trésor est sauvé dans son entièreté. Les seules pertes importantes viennent plutôt des hauteurs, là où les flammes se sont installées des heures durant. Mais là aussi, quelques miracles se sont produits. Vous vous souvenez des 12 statues représentant les apôtres et qui gardaient la flèche qui s'est effondrée? Elles ont été retirées du site le 11 avril 2019, soit quelques jours avant l'incendie, pour être envoyées en restauration au cœur de la Dordogne. Toutes sauvées, donc. Le coq, lui, qui contient une parcelle de la couronne d'épines et des reliques de Saint-Denis et Sainte-Geneviève, est retrouvé quasi intact dans les décombres. Le grand orgue sur lequel jouait encore la veille au soir l'un des organistes pour l'office est sauf lui aussi. Installé en 1858, il a été préservé par la dalle en pierre qui relie les deux tours sauvées par les soldats du feu. Les pertes concernent en premier lieu toute l'armature en bois de la structure. La forêt est désintégrée. Elle était composée de chaînes millénaires qui n'ont pas résisté aux assauts. La flèche s'est effondrée et avec elle, une magnifique horloge Colin, fabriquée en 1867. Quelques morceaux sont retrouvés là aussi dans les décombres. Dans les combles se trouvaient 3 petites cloches, 3 autres dans la flèche de Viollet-le-Duc. Toutes les 6 disparaissent lors de l'incendie. Les autres, celles installées dans les tours, au nombre de 10, massives, immenses, sont toutes sauvées. Le bilan environnemental est aussi lourd et difficile à évaluer. Les 470 tonnes de plomb qui recouvrent le toit et la flèche ont brûlé. Craignant les particules d'oxyde de plomb, les plus proches habitants sont évacués. L'essentiel du panache de pollution semble avoir été déporté hors de la capitale grâce aux conditions météo du jour de l'incendie. En revanche, une contamination au plomb des zones jouxtant la cathédrale est relevée de manière locale et une dépollution sera opérée durant l'été. Pour autant, comme un rayon de soleil un jour de pluie, les faucons cresserelles, vivant dans la tour nord, n'ont pas péri dans l'incendie. Les 3 ruches installées sur le toit de la sacristie et leurs 200 000 pensionnaires, elles aussi vont bien. Le miracle de la vie, en somme. Rapidement, après la fin de l'incendie, l'État, la presse et la population viennent à questionner les responsabilités de la tragédie. Simple accident? Départ volontaire? Erreur humaine ou technique? Les interrogations soulevées sont nombreuses. Et si l'enquête est aujourd'hui en cours, Les pistes commencent sérieusement à se dégager. Et vous allez le voir, les résultats du travail judiciaire s'annoncent quelque peu explosifs.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous parle de l'heure H de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le 15 avril 2019, un incendie sans précédent se déclenche et la France frôle alors la catastrophe. Une fois la tragédie terminée et les feux éteints, commence un long et pénible travail judiciaire afin de déterminer les responsabilités. Cette enquête est toujours en cours. Il nous est impossible maintenant de réunir des certitudes, mais uniquement des faisceaux d'indices. La presse aussi fait son travail et communique des informations intéressantes qui permettent parfois de donner du poids ou au contraire, d'enterrer des pistes. La plus solide d'entre elles mène vers une défaillance électrique dans la charpente. Ben, surprenant, vous allez me dire. Et vous avez raison. Tant il paraît impossible que des systèmes de ce genre soient installés dans des lieux comme la toiture de Notre-Dame de Paris. Et d'ailleurs, c'est tout bonnement interdit en réalité. Mais il semblerait que la règle ait été contournée. Vous vous souvenez des cloches disparues dans l'incendie? 3 dans la charpente, 3 dans la flèche. Eh bien, figurez-vous qu'en 2007 d'abord et en 2012 ensuite, elles ont été installées et s'actionnées de manière électrique. Elles sonnent le 15 avril à 18h pour la dernière fois. Nous sommes alors à 20 minutes de la première alarme. D'autres manquements sont relevés par la presse écrite française, du Figaro au Canard enchaîné en passant par Marianne. Des fils électriques laissés dans les combles, au risque de provoquer un court-circuit. Des mégots de cigarettes, vous avez bien entendu, retrouvés sur les échafaudages extérieurs de la flèche. Un délai hallucinant de 35 minutes entre la première alerte et le coup de fil au secours, sans parler de l'absence de conformité du dispositif anti-incendie de la Direction régionale des affaires culturelles, première de nombreuses failles dans le dispositif incendie. L'enquête qui s'ouvre dès le 16 avril pour destruction involontaire par incendie s'annonce donc des plus retentissantes à tous les niveaux. Le procureur de la République de Paris est le premier à s'exprimer, notant que rien ne permet d'aller vers un acte volontaire, privilégiant tout de suite la thèse accidentelle. Cette déclaration est appuyée par les premières conclusions de la brigade criminelle, qui note des défaillances tout en précisant qu'en l'état, rien ne peut montrer que nous avons affaire à un acte qui serait délibéré. Fin juin, le procureur en charge des investigations clôt l'enquête préliminaire en notant comme cause de l'incendie une cigarette mal éteinte ou une défaillance électrique. La presse révèle même la présence comme pièce à conviction du dossier d'un des marteaux d'une des 6 cloches chargées de la faire sonner de manière automatique. Cette pièce aurait été retrouvée en position de frappe, bloquée donc, ce qui porte à croire que la défaillance électrique, notée par la justice, est la piste à suivre. Mais pourquoi est-ce que ce type d'installation, tout à fait prohibée au sein de charpentes de l'âge de celle de Notre-Dame, ont-elles pu être mises en place? Les prélats, fatigués d'actionner des câbles à la force de leurs bras, ont négocié l'arrivée de ce système pendant la durée des travaux de restauration des beffrois en 2011. Mais cette installation leur facilitant la vie, l'électrification n'a jamais été démontée. Certaines voix s'élèvent contre ces résultats. Certains architectes des monuments historiques notent que les portes en bois ont été remplacées par des portes coupe-feu dans la charpente et que l'incendie n'a pas pu démarrer d'une cigarette mal éteinte ou d'un simple court-circuit. La charge calorifique, c'est-à-dire la puissance des flammes au départ, devait être de très forte importance pour être à l'origine d'une catastrophe comme celle-ci. Alors la cathédrale a-t-elle brûlé à cause d'un incendiaire ou d'un pyromane? Rien ne permet de le savoir pour le moment. les donateurs se mobilisent et ce sont près de 900 millions d'euros de dons, qu'ils soient privés ou publics, qui sont versés en l'espace de quelques semaines. Les débats sur la reconstruction de l'édifice, eux, prennent également de l'ampleur très rapidement après la fin du sinistre. Alors que certains spécialistes craignaient un effondrement du bâtiment, le ministre de la Culture, 48 heures après l'incendie, annonce que la cathédrale est sauvée. L'eau dégagée par les lances pendant des heures est un autre point d'écharpement qui nécessite des réponses rapides, tant le choc thermique subi par les pierres est important. Il est donc décidé de lancer des travaux de consolidation très rapidement après le sinistre. Dans les 48 heures, le pignon nord, fragilisé, doit être déposé. Le ministère de la Culture note 4 points de fragilité importants. Le pignon nord du transept menace de s'effondrer. Toute la nuit du 21 avril, des professionnels entament des travaux de consolidation. Le pignon occidental est considérablement fragilisé. La statue de l'ange en son centre étant fissurée sur toute sa hauteur. L'angle de la tour sud a surchauffé, rendant les pierres friables et augmentant le risque de voir les chimères s'effondrer. Une opération pour les déposer est également lancée. Le dernier point à risque est bien entendu la solidité de la voûte, dont une partie a été transpercée par la flèche lors de sa chute. Cette zone correspond à la nef, à la croisée et au bras nord du transept. Dès le 18 avril, un système de consolidation par échafaudage est organisé. Afin de permettre une meilleure gestion des intempéries, un grand parapluie extérieur est installé pour protéger les pierres du poids de l'eau. On estime alors que la structure a perdu 60% de sa résistance au vent. Le déploiement rapide des travaux est donc indispensable. Le 19 avril, les 19 grands tableaux situés à l'intérieur de Notre-Dame sont démontés et envoyés au Louvre pour y être entreposés en sécurité et être restaurés au besoin. Même chose pour les statues, dont celle de la Vierge à l'Enfant, qui sont aussi mises en sûreté le temps des travaux. Politiquement, l'enjeu est de taille pour le président français. Il annonce dès le lendemain de l'incendie que les travaux devront durer 5 ans, pas un de plus. Il assume totalement le fait que cette échéance a été donnée sans aucun appui d'études scientifiques. Mais tout de même, la mise au travail doit être rapide. Des concours d'architecture sont lancés très rapidement afin de définir le cadre de la reconstruction de la cathédrale. Pour respecter les délais, les compagnons du devoir proposent à la présidence de la République l'installation d'une charpente en métal. D'autres cathédrales ont utilisé ce procédé, comme celle de Chartres. La reconstruction de la forêt n'aurait donc pas lieu. Du moins, des chaînes ne seront pas réutilisées pour habiller la toiture de Notre-Dame. Certains architectes envisagent des projets encore plus audacieux pour la toiture de la cathédrale. Ils imaginent un toit plat sur lequel les visiteurs pourraient se promener au travers de jardins suspendus et même une flèche en carbone. D'autres, un toit de verre avec une flèche réalisée dans le même matériau. Rapidement, des voix s'élèvent contre ces projets à l'innovation réelle, mais qui viendraient transfigurer l'édifice. Le délai aussi est remis en question. Si les 5 ans promis par Emmanuel Macron correspondent aux Jeux Olympiques de 2024 qui se tiennent à Paris, certains spécialistes évoquent plutôt une échéance de 10, voire de 20 ans. Un an après l'incendie et après l'étude de tous les projets de restauration, Emmanuel Macron note qu'il est nécessaire de reconstruire la flèche à l'identique. Il en est donc de même pour la charpente. Le projet de restauration est validé et commence ainsi un travail d'importance concernant le choix des arbres qui vont être utilisés dans le cadre de cette nouvelle forêt. 1000 chênes sont nécessaires à la seule reconstruction de la flèche. Il faut donc ajouter ceux de la charpente. Pour moitié, ceux-ci proviennent des forêts publiques. Pour l'autre moitié, il s'agit de forêts privées. Tous sont offerts. En 2021, 8 chênes de plus de 200 ans ont été récoltés et ont été sélectionnés pour devenir ceux les plus importants de la nouvelle flèche. Le début des travaux de restauration de l'ensemble est prévu pour l'hiver 2022. En réalité, l'approvisionnement de ces chaînes n'est en aucun cas un problème. Ce chiffre de 1000 correspond, tenez-vous bien, à 0,1% de la récolte annuelle. En parallèle, c'est également moitié moins que ce qui a été nécessaire pour la reconstruction du navire l'Hermione en 2014. Aujourd'hui, les travaux ont bien avancé. Si le grand orgue sera remonté et harmonisé au cours de l'année 2023, tous les travaux de consolidation sont, eux, terminés. Actuellement, des travaux préparatoires au sein même des murs sont menés, comprenant dépoussiérage, dessalement des voûtes et curage des réseaux techniques, par exemple. L'intérêt de telles manœuvres ? Préparer la restauration à proprement parler des intérieurs de l'édifice. L'extraction des pierres pour reconstruire des arcs de voûte est en cours, tout comme le sillage des chaînes de la charpente, dans 45 scieries sur toute la France. Une chape de ciment et un plancher provisoire vont être installés cette année, représentant le poids de 500 tonnes d'échafaudage. Les Parisiens pourront ainsi voir s'élever la nouvelle flèche à compter du printemps 2023. Elle sera bien identique, réalisée dans les mêmes matériaux et au centimètre près de la même taille. Emmanuel Macron va partiellement réussir son pari de la réouverture en 2024. Il restera beaucoup de choses à faire, passé cette date, mais une réouverture de certaines zones de l'édifice sera vraisemblablement possible. Monseigneur Patrick Chauvet, le recteur archiprêtre de la cathédrale, se félicite de l'avancée des travaux et note que le nettoyage complet de la structure n'aurait jamais pu être possible sans la tragédie du 15 avril 2019. Le verre à moitié plein, en somme. Si la date de réouverture n'est pas encore connue, il est maintenant quasiment acté que le chœur et le transept seront rendus au culte, mais que le reste sera soumis à des travaux qui dureront encore de très nombreuses années. Il faudra donc encore attendre afin de revoir l'héroïne du roman éponyme de Victor Hugo dans sa parure intégrale. Imaginez assis dans la nef le sacre de l'empereur Napoléon Ier ou le Tédéum de la Libération en 1945. Mais l'essentiel est sauf. Notre-Dame vit, respire et trône au milieu de l'île de la Cité, aujourd'hui, comme il y a 500 ou 600 ans.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.